68, mai 2008, histoire ordinaire d'un printemps en Sarthe. Attention, la radio raconte. Aujourd'hui, le thème, ce sont les syndicats, les syndicalistes et les ouvriers. Pour cela, nous recevons autour de notre table Roland Becdelièvre. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Rémi Clavreul, bonjour.
Bonjour à tous.
Lucienne Martin.
Bonjour.
Et nous avons au téléphone Guy Henry. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je vais vous demander aussi pour animer ces émissions, il y a Franck Pohu, de Fréquencier, Monsieur Michel Rosier, qui est historien. Messieurs, bonjour.
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 Et puis moi-même, Noël, qui anime cette émission. Donc, pour démarrer cette émission mai 68, mai 2008, nous allons demander à chaque invité de se présenter, nous expliquer un petit peu ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire en 2008. On va commencer bien avec Monsieur Clavreul.
Alors aujourd'hui, je suis à la retraite du bâtiment depuis presque 10 ans et j'ai gardé les activités syndicales sur les santé au travail au niveau de ma fédération nationale et au niveau de l'Europe, la fédération européenne du bâtiment et du bois.
D'accord. Vous habitez sur quel secteur ?
Près de la Suze, à Chemire-et-le-Gaudin.
Ah oui. Pas la porte à côté quand même.
C'est pas très loin, pas la petite route de traverse, ça va.
Madame Lucienne Martin, on va vous demander à vous aussi de vous présenter, s'il vous plaît.
Alors, j'étais avant à la préfecture de la Sarthe et ensuite au Conseil Général. J'ai quitté depuis très 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 longtemps mes fonctions. Après, j'ai fait du bénévolat et en particulier à la Croix-Rouge. Et maintenant, je vais aider à certaines actions pour des personnes handicapées.
Vous avez des activités, vous êtes occupée?
Ah oui, je suis occupée bénévolement.
Voilà, très bien. Monsieur Roland Becdelièvre.
Oui.
Oui, vous faites quoi actuellement, monsieur Becdelièvre?
Qu'est-ce que je fais actuellement? je bricole. Non, mais j'ai quelques activités sociales. Je suis toujours adhérent au Parti Socialiste, mais je n'ai plus de responsabilité politique. Et je n'ai plus de responsabilité syndicale non plus, sauf que je suis adhérent aux retraités CFDT.
Mais vous êtes quand même actif au niveau de votre
vie. Je suis dans une association d'aide à domicile, par exemple, puis dans deux ou trois autres associations, oui. Je m'occupe.
Vous êtes occupé aussi.
Ouais.
Très bien. Et puis on a aussi Monsieur Guy Henry au téléphone, Monsieur Guy Henry.
Oui.
Oui. Est-ce que vous pouvez vous nous expliquer aussi ce que vous faites actuellement, votre activité?
Oh, ce que je fais actuellement, je vais vous dire, j'ai 82 ans passés. Oui, je suis en retraite depuis maintenant 23 ans et je suis parti en retraite en mars 85. Alors j'étais syndicaliste à la CGT, j'étais à la Régie Renault pendant presque 30 ans, 30 ans moins quelques mois. J'étais syndiqué CGT et j'étais aussi membre du Parti Socialiste, j'étais au bureau fédéral à l'époque, en 68. J'étais membre du bureau fédéral de la SFIO. Et puis j'ai donc milité très longtemps, jusqu'à 1994, où je n'ai plus repris ma carte du Parti Socialiste.
Oui.
Mais par contre, je suis toujours un retraité CGT et où je paie ma cotisation au syndicat. Voilà. Quant à mes bricoles, j'ai bien du mal maintenant à bricoler parce que je fais de l'arthrose à haute dose. Et puis, ma mémoire commence à s'estomper comme le restant du bonhomme. Voilà.
Mais vous êtes quand même avec nous aujourd'hui.
Et je suis quand même avec vous, mais je vous dis, mes limites sont bien définies quand même.
Eh bien, on va voir ça pendant l'émission, il n'y a pas de problème, monsieur Henry. Donc, question aussi à chacun maintenant. Je vais vous demander l'activité que vous aviez à l'époque dans votre vie et dans votre vie professionnelle. On va peut-être commencer avec monsieur Becdelièvre, s'il veut bien répondre à cette question.
Ah oui, à l'époque, j'étais secrétaire général de l'Union départementale CFDT.
Oui, c'est-à-dire, ça consistait en quoi exactement?
J'étais responsable de l'activité syndicale dans tout le département de la Sarthe et dans toutes professions.
Oui.
Voilà.
C'était un emploi, enfin, c'est, on pouvait
c'était un emploi à temps complet. Détaché de la SNCF puisque mon métier était cheminot.
D'accord. Donc, il y avait beaucoup d'activités à cette époque-là. Les syndicats était actif, avait...
Oui, il était actif. On faisait pas 35 heures au syndicat, on faisait beaucoup plus, on travaillait le dimanche, le soir. C'était une activité à plein temps, et j'étais rémunéré par les cotisations syndicales à l'époque.
Mmh. Madame Lucienne Martin, vous, à l'époque, vous étiez à la préfecture, donc?
Oui, j'étais chef du bureau du cabinet du préfet.
Qui était?
Pardon.
Le préfet, c'était qui à l'époque?
C'était Tony Roche.
Tony Roche, d'accord.
Et nous n'avions pas prévu du tout ce qui allait se passer avec mmh. le préfet. Et nous avons été assez surpris de la participation des étudiants.
Voilà. Donc, vous, votre rôle à la préfecture, vous étiez secrétaire?
Non, j'étais chef du bureau du cabinet voilà, du préfet.
Alors, ça consiste en quoi exactement ce rôle?
C'est-à-dire que l'ensemble du cabinet était dans un secteur.
Mm-hmm.
Et c'était ce chef de bureau que j'avais comme président.
D'accord. C'était un emploi.
C'était un emploi fixe.
Oui.
J'avais passé des concours pour la préfecture, donc j'ai passé tous les concours.
Mmh.
J'ai passé secrétaire administratif, attaché principal, et ensuite chef de division.
Alors, est-ce que beaucoup de femmes travaillaient à l'époque?
Oui, nous avions quand même pas mal de femmes dans la préfecture.
Oui.
Nous avions, c'est pareil, on travaillait toute la journée, mm-hmm. y compris le samedi après-midi.
Ah oui.
Et après, nous avons eu que le matin.
Mm-hmm.
Après, bien sûr, ça a changé. Et il faut dire que le personnel était extrêmement... Il était très, très intéressé par tout ce qu'il faisait. Le personnel, mm-hmm. c'était formidable.
Il était motivé.
Il était très, très motivé.
D'accord. On va passer avec Monsieur Clavreul, donc même exercice à l'époque, vie professionnelle, vie privée, enfin votre vie de l'époque.
Bon, j'arrivais de la Mayenne en septembre 67, un peu avant, et je bifurquais professionnellement, du moins j'avais fait des études assez longues au séminaire donc, et j'avais envie de changer vraiment et de comprendre ce qu'était la vie sociale des travailleurs les plus ordinaires, je dirais. Alors j'ai démarché, j'ai cherché du boulot en septembre 67 au Ronceret-Glonière pour travailler dans le bâtiment, et j'étais embauché à l'entreprise Eulin à ce moment-là, et où il y a une très grosse activité professionnelle dans le bâtiment, par exemple d'un marché était 1027 logements à la fois.
Ah donc, oui.
Voilà. Mmh. Donc j'ai tout appris avec des copains, en particulier portugais et turcs. Et donc j'ai appris le turc avec eux, au Sablon complètement. Oui. C'est ouais. là que j'étais embauché finalement, au Sablon. Et j'ai tout appris. Je faisais le manœuvre, hein, tout simplement. Et donc il fallait bûcher le béton avec une pointrole ou un burin, et puis une massette toute la journée, des kilomètres comme ça, quoi.
Voilà. Et c'était pas les 35 heures non plus.
C'était 50 heures d'un boulot dur, donc voilà. Et je crois qu'il y a une aspiration là aussi à vouloir avoir du temps pour se reposer déjà, mm-hmm. sans parler des loisirs, voilà. Et donc ce mélange très fort qu'il y a eu. Et ces questions très fortes sur l'immigration, quoi.
Oui.
Parce qu'ils n'étaient pas intégrés du tout, quoi. Oui. Donc il a fallu ramer au niveau syndical aussi pour qu'ils aient leur place. Et le jour où ils sont devenus délégués à leur tour, c'était une petite révolution.
Mm-hmm.
Voilà.
Déjà,
même à la CGT.
Oui. Donc en mai 68, vous étiez aussi, vous étiez toujours dans cette entreprise.
Alors en mai 68, j'étais donc dans cette entreprise, syndiqué depuis 6 mois. Et on m'a donné, au cours de 68, là c'était un vrai baptême, hein, nouveau, et on m'a donné des responsabilités syndicales. Bon, il y a plein de choses. Hein, et je me rappelle toujours qu'il y avait un tract, il manquait un mot. Il manquait le mot lutte, c'était pas rien, il manquait ce mot-là dans le tract. Mmh. Et bien avec les Turcs, et on a appris le mot, c'est savache en turc, et ils ont écrit le mot lutte. Et donc ce mot, les Turcs l'ont copié 200 mmh. fois là,
mmh.
voilà, des petites choses qui fait que ça rentre petit à petit, voilà.
D'accord. Monsieur Guy Henry,
oui.
Vous à l'époque, donc début 68, mai 68, votre vie personnelle, professionnelle?
Alors, en 68, là, à ce moment-là, j'avais débuté à la régie en 1956. J'avais débuté comme fraiseur-outilleur à l'AOC, à l'atelier d'outillage central. Et puis, j'étais préparateur de travaux d'entretien. Et en 68, j'étais chef d'équipe au secteur entretien toujours, où naturellement, comme son nom l'indique, hein, l'entretien, c'est divers, c'était le travail, oui, c'était 10 heures par jour, et quelquefois les samedis, voire éventuellement quand il y avait de gros pépins, travailler le dimanche, ça arrivait aussi. Et donc en 68, je vous dis, j'avais ce poste-là. Mm-hmm. Pour terminer ensuite, alors là, après j'étais contremaître, et puis j'ai terminé comme conducteur de travaux extérieurs au service des travaux neufs.
Voilà. D'accord. Donc, vous aviez une activité prenante aussi. Je suppose que chez vous, les 35 heures, ça n'existait pas non plus.
Non, je vous dis, c'était 10 heures par jour, et quelquefois même, alors 10 heures par jour, et quelquefois même le samedi, souvent même le samedi, parce que il y a des travaux qui ne pouvaient pas se faire en temps normal, et voilà, et les travaux de dépannage urgent, quand ça existait, c'était plus rare, mais ça arrivait, des travaux éventuellement de nuit.
Alors, je voudrais demander à chacun des invités, est-ce que à l'époque, il y avait, on va dire, des soucis pour trouver de l'emploi, comme on rencontre actuellement, où c'était quand même plus simple de trouver un emploi?
Ah non, c'était quand même plus facile de trouver un emploi à cette époque-là que ce n'est maintenant, par exemple.
Monsieur...
C'est vrai, hein?
Oui.
Oui, quand même.
D'accord, M. Becdelièvre dit qu'il n'y avait pas de chômage.
Non, parce que c'est exactement ça.
Il faut nuancer parce qu'il y a eu les premiers licenciements chez Gemont.
À qui je me permets de transmettre mon salut parce que j'ai bien connu Becdelièvre.
Oui, je te dis bonjour d'ailleurs, je suis heureux de t'entendre.
Bonjour à toi. Hein.
Alors, je voudrais voir qu'on vienne un petit peu avec M. Rosier, qui est donc l'historien de ces émissions. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les syndicats en 68?
Sur les syndicats dans la Sarthe.
Est-ce qu'ils étaient actifs?
Ils étaient très actifs. Il faut savoir, enfin, M. Becdelièvre en parlait avant l'émission, que les années 60 sont des années d'agitation sociale quasi constante.
Oui.
Particulièrement au Mans, dans le monde ouvrier et dans le monde agricole. On a oublié que la décennie des années 60, c'est la grande décennie de diminution du nombre d'exploitations agricoles. Et le mai 68 au Mans, ça commence le 8 mai par une grande manifestation syndicale et agricole. Hein, soutenu par des gens aussi peu révolutionnaires, je dirais, que les gens de la famille rurale, par exemple. Donc, c'est donc quelque chose, c'est un paysage qui est très différent du paysage actuel, mais c'est un moment de grande lutte sociale.
Alors, quels sont les syndicats qui existaient à l'époque?
La CGT, qui est le grand syndicat, si vous voulez, qui est à l'époque animé par Léon Étienne, qui était l'équivalent de Roland Becdelièvre, lui qui était à la CFDT, ce sont les deux grandes centrales syndicales. Il ne faut pas oublier, parce qu'on va en parler dans d'autres émissions, le rôle des enseignants, hein, et des trois grands syndicats enseignants, syndicat national des instituteurs, le SNES pour le secondaire, le SNESUP qu'on va trouver pour le supérieur, qui est dans la jeune université du Mans, enfin la jeune fac du Mans. Et donc il y a un paysage syndical et le nombre d'adhérents évidemment est bien supérieur et dans le secteur privé à ce qu'il est aujourd'hui. Ça n'a pas, il n'y a pas de comparaison possible, je crois. Enfin, je crois qu'on peut le dire.
Oui, oui, les effectifs syndicaux ont baissé. Ça reprend un peu en ce moment, mais... Il y a eu une période de... Mais aussitôt après 68, il y a eu la création de la section syndicale dans chaque entreprise.
Mm-hmm.
Et les effectifs de la CFDT de l'époque sont passés de 6 000 à 12 000 au moment de 70.
Monsieur Rosier parlait tout à l'heure de l'implication du monde agricole dans les événements de mai 68. Est-ce que Monsieur Clavreul, vous avez une petite anecdote justement par rapport à ce lien entre... Est-ce qu'il y avait un lien entre le monde ouvrier et le monde agricole à cette époque-là?
Il y avait un lien très fort qui s'est exprimé à travers la solidarité. Tout à l'heure, on parlait aussi des enseignants. Alors, d'abord, il y a eu aussi une solidarité avec les enseignants de Washington, par exemple, qui ont fait une forte collecte, mais avec les paysans. Et ils ont été très sensibles. Et alors, c'est moi qui tenais le cahier de répartition des denrées que les paysans nous apportaient. Donc c'était au mois de mai, ça durait 3 semaines chez nous, l'occupation. Donc souvent des familles nombreuses, donc avec des petits moyens et ne pas avoir des salaires pendant 3 semaines, c'était dur. Donc les paysans nous apportaient des salades, des œufs, et on distribuait selon le nombre d'enfants, on distribuait ces denrées 2 ou 3 fois la semaine, quoi. Et on avait une relation avec les paysans très forte et très, très amicale, oui. Très solidaire.
Oui, j'ai d'ailleurs une question. Moi, dans la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, à l'époque, si j'ai bonne mémoire, était animée par Robert Coulon.
C'est vrai.
Et Robert Coulon, qui était associé à la manif du 8 mai, donc était là.
Oui, mais la manif du 8 mai, c'était une manif l'Ouest veut vivre.
Tout à fait d'accord.
C'était une dimension régionale. Oui. Pour mettre en valeur l'Ouest. Oui. Et pour cela, on voulait faire l'alliance des paysans, des ouvriers.
Tout à fait.
Et les étudiants.
Les étudiants après.
Oui, après. Le 8 mai, ils sont peu mais présents.
Au départ, non.
Oui, justement, est-ce que quelqu'un comme Coulon a joué un rôle, par exemple, dans l'aide des agriculteurs aux grévistes? Comment ça s'est passé? Pratiquement.
Il me semblait que c'était assez spontané, que les uns et les autres avaient des familles. C'était spontané par des liens familiaux, quoi.
D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais.
J'ai pas ressenti, moi, je ne savais pas, peut-être, oui.
D'aide institutionnelle, vous n'avez pas senti...
Je suppose que oui, mais les travailleurs de la construction arrivaient de la campagne, quoi. Oui. Et je me souviens, il y avait des quarts de ramassage, il y avait 200 gars qui venaient de la campagne, quoi. Oui. Donc il y avait des solidarités qui existaient par des liens naturels, quoi. Oui.
Et vous, monsieur Becdelier, vous l'avez vécu aussi, cette période où les gens vous aidaient ou,
Bah ça fait partie effectivement de mai 68, mais c'est pas l'essentiel. Mmh. L'essentiel, c'est la volonté politique des paysans et des ouvriers de travailler pour le développement de l'Ouest. On considérait qu'il y avait une inégalité en France et qu'il y avait à exercer une action très forte. Oui. Et en particulier, il y avait le slogan « L'Ouest veut vivre ».
Il y avait à l'époque de grandes différences de salaire entre Le Mans, par exemple, et Paris. Dans les revendications, ça a joué un rôle constant et on retrouve également la trace d'ailleurs de ça dans les débats du Conseil Général sur ce thème, hein, particulièrement dans la bouche bien sûr des trois conseillers généraux communistes qui étaient à l'époque...
Non seulement les salaires étaient différents, ce qui n'est pas normal, mais les prestations familiales par exemple.
Oui.
Les allocations familiales étaient différentes pour élever un enfant en région parisienne ou en Sarthe par exemple. Ça c'était une anomalie, donc ça a été soulevé. Pour une véritable, des vraies prestations, là, il y avait quelque chose de très fort, des droits égaux à travers le pays aussi, quoi.
On va s'arrêter pour une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour de nouvelles questions avec nos invités pour ce plateau syndicats et ouvriers.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout-prout cadet. À cheval sur mon bidet, mets pas tes doigts dans le nez. Tu suces encore ton pute, qu'est-ce que t'as renversé? Ferme les yeux, ouvre la bouche, pour pas tes ongles vilains. Va te laver les mains, ne traverse pas la rue, sinon pampan tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout-prout cadet. À cheval sur mon bidet, laisse ton père travailler, viens. Viens donc faire la vaisselle, arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça, à dada, poteau de cadet. À cheval sur mon bide, tu me fatigues, je n'en peux plus. Dis bonjour, dis bonsoir, ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça, à dada, poteau de cadet. À cheval sur mon bide, tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne? Je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça, à tada pour tout cadet. À cheval sur mon bidet, vous en faites pas les gars. Vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça, fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, la la la. La la la. La la la. La 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 la. La 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 la.
On revient dans notre émission mai 68, mai 2008. On parle toujours des syndicats et des ouvriers. Juste avant notre pause musicale, on parlait de l'entraide qu'il y avait avec les paysans. On parlait aussi de ce que Monsieur Becdelier disait, l'Ouest veut vivre. Donc, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce slogan, l'Ouest veut vivre?
Eh bien, si vous voulez, il n'y avait pas de chômage en 68, il faut le dire, mais tous les jeunes partaient.
Mmh.
Et il y avait une immigration massive de l'Ouest vers Paris. Et donc, nous, on pensait qu'il fallait développer des activités sur place. C'était l'intérêt de tout le monde, des paysans, de toute la vie sociale dans l'Ouest. En particulier, moi je me rappelle, il y a eu un ministre des Transports qui s'appelait Robert Buron et qui a saisi les manifestations paysannes et les prises de préfecture en Bretagne pour faire l'électrification entre Le Mans et Rennes. Mmh. Hein, et le plan routier breton est parti de là aussi. Hein, le plan routier breton, où il n'y a pas de péage encore aujourd'hui, c'est une suite de cette période. Avant, mais c'était le mouvement qui existait toujours en 68.
Monsieur Guy Henry,
oui,
je voulais savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes syndiqué?
Ah ben je suis entré à la CGT en 1947. Où je venais de, j'avais quitté l'armée, j'étais engagé, je suis ancien combattant de 39-45, j'ai été démobilisé en fin 46 et je suis rentré parce que je n'étais pas sartois et je n'étais pas à la régie, je travaillais dans l'imprimerie, en Seine-et-Marne, comme mécanicien bien sûr, et je suis pour des raisons de mariage d'ailleurs, fait que mon épouse était mancelle, et je suis venu et je suis rentré à la régie Renault. Voilà, et ce que je voulais dire aussi, ajouter, parce que j'ai entendu l'un des participants tout à l'heure parler de 68 aussi, de dire qu'il y avait déjà eu des mouvements, effectivement, 68, ça a été l'aboutissement de plusieurs mouvements qui duraient depuis déjà le début de 60, ça bougeait beaucoup. Je parle de la régie Renault, là, je suis donc rentré à la régie Renault en 56, à la régie Renault, ça bougeait beaucoup. Ça bougeait beaucoup à tel point que même quand le Renault Le Mans s'est mis en grève le jeudi 16 mai, il y avait déjà Cléon en grève, etc. Il y avait plusieurs Billancourt, puisque la veille même, nous avions eu un conseil syndical. Alors, comme je vous l'ai dit, j'étais entré à la CGT. Je n'étais pas membre responsable parce que j'étais déjà responsable politique comme militant de la SFIO, et quelquefois j'avais des difficultés avec mes propres camarades du syndicat qui n'étaient pas toujours en accord parfait avec le mouvement politique auquel j'appartenais, je le répète, la SFIO. Ceci étant, malgré tout, j'y avais de très bons camarades et j'y militais en fonction de ce qui m'était demandé aussi. Et puis il faut dire qu'à l'époque, là aussi, il y avait les gens étaient beaucoup plus facilement syndiqués qu'ils ne le sont maintenant. Et là,
oui.
Voilà.
Monsieur Rosier voulait intervenir.
Oui, j'avais deux questions à Guy Henry. La première question que j'ai à Guy Henry, c'est que les syndicalistes CGT de Renault, ils étaient à dominante communiste à l'époque, si j'ai bonne mémoire.
Pardon, oui. J'étais moi socialiste.
C'était lui le socialiste.
Je sais. Donc, voilà. Oui, ça se passait, à mon avis, pas très
Alors,
bien.
Alors, nous avions quelquefois des divergences de vues, mais ce qui ne nous a pas empêché de participer ensemble et activement en 68.
Hein. Je crois qu'il serait bien qu'ils nous disent quelques mots des deux leaders de la CGT Renault en 68, Michel Ogatte et Gérard Lemercier.
Oui, exactement. Gérard Lemercier, avec qui nous étions plus que camarades, nous étions amis, Gérard Lemercier, et puis Michel Ogatte, etc. Oui, ben, bien sûr, c'est tous les camarades de l'époque, oui.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu d'eux, quelle était leur action, comment ils vivaient à cette époque-là?
Michel Ogatte, par exemple, Gérard Lemercier, qui a été longtemps le secrétaire du syndicat Renault aussi, Gérard Lemercier. Écoutez, je vais même vous dire que Gérard Lemercier était bien sûr un militant actif et de valeur, les autres aussi, tous, hein, mais lui en particulier, et avec qui nous avions des rapports qui permettaient quelquefois d'allier ensemble, sur le plan syndical et moi politique, d'avoir des actions en parfaite cohésion. Voilà.
D'accord. Je voudrais venir maintenant avec Monsieur Clavreul. Vous, pourquoi est-ce que vous vous êtes syndiqué?
Je me suis syndiqué parce que j'estimais que c'était tout à fait naturel et que je l'ai compris assez vite. Après, ça a confirmé qu'on ne gagne, on ne change notre vie que par l'action collective. Donc le syndicat était une grande école pour moi parce que c'est là qu'on découvre, on reconnaît les valeurs aux hommes sur leur dignité, sur les moyens pour vivre... des questions essentielles à la vie. Et ça, c'est le syndicat qui les défend, et pas le syndicat à notre place, le syndicat ensemble, nous. Voilà. Et c'est aussi... la construction de la personne se fait à travers ces actions collectives, c'est une dimension, à mon avis, nécessaire à la construction de la personnalité.
Monsieur Bec de Lièvre, vous ?
Ah bon, chacun son tour. Là.
Oui, pourquoi vous êtes syndiqué ? Ah bah oui, je veux tout
savoir.
Oui, bah,
moi j'ai commencé à travailler à 18 ans dans la région parisienne, et au chemin de fer, aux ateliers du chemin de fer. Et en fin de compte, on vous expliquait qu'on était tous syndiqués à la CGT.
D'accord.
En arrivant, on m'a dit, on t'a préparé ta carte. J'ai dit, attendez, on va voir, on va réfléchir.
Mm-hmm.
À partir de là, moi j'ai dit, alors j'ai retrouvé un autre gars qui m'a dit, non, il existe la CFTC. J'ai assisté à la scission CGT-FO à l'époque. 47. C'était dans les années 47.
Fin 47.
Et je suis resté à la CFTC de l'époque, petit syndicat contestataire
et chrétien.
Chez les cheminots.
Oui, Madame Martin, donc il n'y avait pas de syndicat à la préfecture.
Non, pratiquement pas.
Vous n'étiez pas syndiqué.
Non.
Par contre, vous avez vécu les événements depuis l'intérieur de la préfecture. Est-ce que le préfet a reçu à un moment les syndicats ?
Oui. Le préfet a d'abord commencé par recevoir les jeunes qui étaient dans les facs, parce qu'il voulait voir un peu ce qu'ils avaient. Bon. Donc il les a reçus.
Et quelle était l'ambiance dans la préfecture à cette époque-là ? Parce que c'était pas ouvert à tout le monde, j'imagine.
Non, c'était assez limité. Mais de toute façon, le préfet tenait bien en place tout son arsenal. Alors après les jeunes, et avec lesquels d'ailleurs ils ont eu assez peu de ressemblance, je veux dire, parce que le préfet pensait qu'ils avaient préparé un topo, ils n'avaient rien fait, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, etc. Et alors après, il a pris conscience avec les délégués syndicaux, et en particulier après la grande manifestation du 17 mai, 17-18 mai, lorsqu'il y a eu, si on peut dire, l'envahissement de la préfecture.
Le 13 mai, c'est le 13 mai.
Le 13 mai.
Le 13 mai. La casse à la préfecture, c'est le 13 mai.
C'est le 13 mai.
Et alors, cette manifestation qui groupait plus de 25 000 personnes à l'époque... Ils ont été, d'abord à l'origine, avec les syndicats, il n'y a jamais eu aucun problème. Les syndicats respectaient très bien les ordres et il n'y avait pas du tout de danger pour envahir la préfecture du tout. Et le préfet était très très calme, il ne voulait surtout pas qu'il y ait d'échange ni rien du tout. Ça s'est très très bien terminé. Sauf qu'en fin de journée, il y a des jeunes qui ont forcé pour ouvrir les portes de la préfecture et qui sont entrés. C'est là d'ailleurs qu'ils ont pu renverser une voiture de la préfecture, du préfet, et puis qui ont renversé des tas de tout ce qu'il y avait dans le jardin. Tout. Et ensuite, ils sont entrés dans le pavillon du président. Le conseil général, mais qui était pour l'instant inoccupé.
Et donc le préfet a reçu tous les militants syndicaux de l'époque ?
Il les a reçus un par un,
ensemble.
Il y a eu énormément de difficultés. Le préfet, je voyais par exemple le service d'ordre, celui des manifestants, a fait son possible pour... éviter qu'il y ait d'autres aspects, comme justement d'envahir d'abord la préfecture. C'était très net. Et il y avait le commissaire central, qui est monsieur, qui doit être décédé, je pense, monsieur Castéran, qui commandait vraiment avec son adjoint. Et ils se sont rendus avec les délégués syndicaux pour essayer de voir ce qu'il y avait. Mais c'est là que ça s'est manifesté, parce qu'il y avait des jeunes qui voulaient entrer dans la préfecture.
Alors, vous, Madame Martin, vous l'avez vécu comment, cette journée, personnellement ?
Oh, cette journée, plusieurs journées d'ailleurs, je les ai passées à la préfecture. J'étais seule, puisque mon mari était à la préfecture des Hauts-de-Seine. Donc je restais à la préfecture et j'étais avec le préfet. Et
vous avez couché à la préfecture.
Je couchais à la préfecture.
Ah oui, ouais, non, mais faut tout dire.
Bien souvent, on recevait des ordres de Paris, et c'était souvent dans la nuit.
Ah
donc,
oui.
Mais c'était très net. On n'avait pas d'ordre comme on souhaitait l'avoir sur Terre.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous auriez voulu avoir comme ordre que vous n'avez jamais eu?
On aurait pu savoir peut-être ce qu'il y aurait, ce qu'il y avait. Non, à Paris, c'était net. Hein, on savait qu'on devait voir sur place ce qui se passait, mais on n'avait pas d'ordre.
D'accord.
La seule...
Débrouillez-vous, quoi.
Ah oui.
Débrouillez-vous.
C'était ça.
C'était sympa ça. Quand même.
Et alors.
Ouais, mais c'était ça.
Et ce qui est certain, c'est que le préfet a fait presque une observation lorsque de Paris, on a reçu l'ordre. Peut-être, c'était pas tout à fait encore certain, peut-être d'évacuer Renault.
Mm-hmm.
Et là, le préfet a eu une attitude très très nette. Il pensait que c'était inutile et qu'il ne fallait pas s'engager dans cette opération.
Oui.
Et ce soir-là, on a fait un télégramme qui n'était pas chiffré parce qu'il fallait que ce soit très rapide. C'était un télégramme direct. Et je dois dire que ce soir-là, nous avons bien cru, sa femme et moi, que le préfet ne resterait pas longtemps.
Ah oui.
Parce que c'était très très net et on n'a pas...
Il a refusé, dans le fond, d'envoyer la police chez Renault.
On n'a rien fait du tout. Mm-hmm. Et dans la nuit, ils ont essayé de faire à Flin. Et à Flin, ça a très mal tourné. Mm-hmm. Ce qui laissait bien que ce que nous avions dit était tout à fait possible.
Oui, vous aviez raison.
Parce que si on avait dû toucher Renault, toutes les autres usines seraient venues immédiatement. On savait que dans chaque usine, il y avait des personnes qui avaient toutes sortes de trucs, hein, on pourrait des tas de...
Mmh.
Oui. Et on ne pensait... Tout le monde allait arriver de chaque côté et que c'était impossible de tenir Renault comme ça.
Oui, ça aurait pu être gérable après.
Ça aurait pu, vraiment, très, très...
Ouais.
Ça aurait été vraiment impossible.
Monsieur Clavreul,
oui, je veux dire que Mme Martin relate en effet qu'il était vraiment inutile et que ça aurait été dangereux de provoquer ce mouvement qui, jusqu'alors, s'était développé justement de façon spontanée. Ce n'était pas un appel, un mot d'ordre de la CGT nationale, pas du tout. C'est parce qu'il y a eu progressivement des occupations d'usines et ça s'est élargi très vite, finalement, sur des questions majeures. Mais la source de mai 68 n'est pas venue comme ça un beau matin de mai. Il faisait beau, c'est vrai. C'est venu d'avant, en particulier au Mans, qui a été un des éléments pour faire monter la pression. C'était octobre 67.
Oui, c'est vrai.
Au Mans a été une grande soirée le 26.
Ouais, ouais.
Et là, bon, il y avait eu en France aussi, sur Peñarroya, le joint français, il y avait eu des grèves symboliques d'occupation longues. Et il y avait eu aussi, alors, les malheureuses ordonnances de Gaulle sur la sécurité sociale. Ça, je crois, c'était un des éléments qui a mis le feu aux poudres, en quelque sorte. Et pour restaurer la place des représentants des syndicats dans la sécurité sociale. Puis ça a été les questions des salaires, l'âge de la retraite, des conventions collectives et surtout aussi, je crois, le droit syndical. Le droit de s'organiser sans répression, la reconnaissance de la section syndicale. Ça, c'était essentiel.
Ouais.
Est-ce qu'avant, elle n'était pas reconnue?
Non, pas du tout.
Le syndicat n'était qu'à l'extérieur de l'entreprise.
Oui. D'accord.
Il n'y avait que des délégués élus. Moi, en tant que permanent syndical, j'étais interdit de séjour dans un certain nombre d'entreprises, même prendre contact avec les délégués.
Ça,
par exemple, à l'usine Schneider Radio-Télévision, qui s'est développée dans les années 60, 68, elle était à 2500 personnes. Bien, pour voir les délégués, il fallait que je sois bien avec les gardiens et qu'on arrive à se retrouver à la porte. C'était ça. Il n'y avait pas le droit syndical dans l'entreprise. Il y avait le droit syndical à l'extérieur. On discutait de conventions collectives, départementales, nationales, etc. On rencontrait les délégués patronaux à l'extérieur des entreprises. Mais dans l'entreprise, c'était sacré, pas de syndicat. Pas de reconnaissance syndicale.
Okay.
Et 68 a permis, il y a une loi qui en est sortie, créant la section syndicale d'entreprise. Ça, c'est un des acquis de 68.
C'est sorti des accords de Grenelle. Quoi.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, Guy Henry, lui, a créé une section syndicale d'entreprise. Guy Henry? Ah, je crois qu'on a perdu Guy Henry. Voilà. On a plus Guy-Henri au téléphone. Alors, je voulais juste spécifier que Guy-Henri, moi, quand je l'ai eu au téléphone, que je l'avais invité pour cette émission, il m'avait spécifié qu'il avait créé la première section socialiste d'entreprise.
Socialiste, oui.
Ah oui, oui, section politique. Oui, oui,
voilà.
Ah, tout à fait. Ah, oui, mais ça, 68, oui, n'a ça, pas réglé ces problèmes-là.
Et ça, c'était bien avant, d'ailleurs.
Ah, ouais,
oui. Il l'a créé dans les années 50, hein, si ma mémoire est bonne.
Mmh, oui, d'accord.
Parce qu'il était, il était donc...
Ça n'a rien à voir avec la section syndicale.
Oui. D'accord. Donc, c'est vrai que... Alors, on va faire une petite pause musicale et puis on va essayer de rappeler Monsieur Henri pendant ce petit intermède. On se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission.
La terre perd la boule et fait sauter ses foules. Voici finalement le grand, le grand. Voici finalement le grand chambardement. Un grain de sable explose, un grain c'est peu de choses, mais de mes 10, mes 100, ça c'est intéressant. Voyez messieurs, mesdames, dans l'univers en flammes, entre les hommes neutrons, la danse des neutrons, c'est l'atome en goguette, le ping-pong des planètes, la lune fait joujou. Et met la terre en joue, c'est la grande escalade, les monts en marmelade, sous le rayonnement du grand, sous le rayonnement du grand chambardement. Place pour le quadrille, des fusées, des torpilles, ce soir c'est le grand bal, la terre des vers globales, voyez les belles phrases. La Chine table rase, se crépant le chignon, à coups de champignons, sur les montagnes russes, passées au bleu de Bruce, les bons gars du Far West.
5, 4, 3, 2, 1.
Ont bien tombé la veste, regardez qui décide, ce joyeux génocide, qui dirige vraiment. Le grand, qui dirige vraiment le grand chambardement. Ciel, ce sont les machines divines qui nous crient en avant, en langue de savant, que les calculatrices sur le feu d'artifice alignent leurs zéros comme des généraux. Elles ont fait merveille. Bravo pour ces abeilles, on décore à 7 heures.
5, 4, 3, 2, 1.
Le grand ordinateur, nous finirons la guerre avec des lance-pierres si nous vivons demain.
5, 4, 3, 2, 1.
Aïe, nous en viendrons aux mains. Si nous vivons demain, nous en viendrons aux mains.
Voilà, après cet intermède musical, on revient avec nos invités. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Roland Becdelièvre, Rémi Clavreul, Guy-Henri, Lucienne Martin, pour nos invités, pour parler des syndicats des ouvriers, Franck Pohu qui anime, avec moi-même Noël, et Michel Rosier qui est l'historien de ces émissions. Guy-Henri, est-ce que vous m'entendez ?
Là, je vous entends faiblement, mais je vous entends.
Le principal, c'est que vous m'entendiez, monsieur
oui,
Henri.
Oui.
Alors, je vais vous demander, comment est-ce que vous avez vécu, vous, ces événements de mai 68, vous, personnellement ?
Eh bien, écoutez, je les ai vécus intensément, compte tenu de mon engagement à la fois au syndicat et au parti politique. Oui, alors, je l'ai vécu intensément parce que l'occupation de l'usine, bien sûr, dès le jeudi 9 mai, a fait qu'on a mis en place, alors là, sur le plan syndical, mis en place hein, tout un conseil, malgré tout, de surveillance de l'usine pour faire en sorte que toute l'usine reste en état de fonctionnement, qu'il n'y ait pas de détérioration quelconque produite par Ronski. Alors là, donc j'étais l'un de ces responsables-là. Et puis politiquement, au fur et à mesure, compte tenu de la situation politique de l'époque, dont moins qu'on puisse dire était plutôt un peu bizarroïde, il n'y avait plus de gouvernement, il n'y avait plus rien, et le parti m'avait désigné, dès que ça s'est décidé, d'être le candidat aux législatives qui ont suivi là dès juin 68. Alors voyez-vous, j'étais très engagé, où mon épouse inclusive.
Mm-hmm, d'accord.
Allô.
Oui, on vous entend toujours, monsieur Henri, vous inquiétez pas, vous êtes toujours avec nous, il n'y a pas de problème.
Intensément, j'en ai gardé des tas de souvenirs, mais qui sont vraiment tout mélangés. C'est maintenant une chose ancienne quand même.
Mmh.
Voilà.
Mais c'est toujours encore quand même bien, bien clair pour ce que vous nous racontez. Je vais poser la même question à Monsieur Bec de Lièvre.
Oui.
Comment est-ce que vous avez vécu ce mai 68, ces manifestations, tout ce qui se passait?
Oui, mon point de vue, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, est-ce que 68 est encore valable? Et contrairement à M. Sarkozy là, qui dit 68 c'est grave, c'est vrai que ça a charrié des tas de choses, mais la section syndicale c'est quelque chose qui existe maintenant, c'est important. Deux, à l'époque on a quand même réduit les inégalités en matière de salaire. Le SMIC a été augmenté, tenez-vous bien, de 35%.
Mm-hmm.
Alors que les gars de chez Renault qui ont fait le plus de jours de grève ont gagné beaucoup moins. Ah, ils ont eu, je ne sais plus combien, 7 ou 8%. Et donc, en fin de compte, ça a permis à beaucoup de petits salaires de grimper. Deux, on n'a pas récupéré la sécurité sociale. Et depuis, la sécurité sociale, alors c'est peut-être pas plus mal. En fin de compte, il vaut mieux que la sécurité sociale soit dans les mains actuellement du gouvernement, compte tenu des problèmes qu'il y a. Hein, mais concrètement, on ne l'a pas récupéré, la gestion ouvrière de la sécurité sociale. Par contre, il y a eu un aspect qui n'a pas été négligeable, c'est que la force de frappe a été annulée pendant un an. Et moi qui suis un partisan de suppression de la force de frappe, un an de gagné, c'était toujours un an de gagné. Mais elle existe encore, toute politique confondue. Bon, ça a permis de renouer aussi des relations entre les étudiants et les ouvriers. Et c'était intéressant pour l'activité syndicale, parce que ça obligeait à reposer beaucoup de problèmes de la vie sociale de l'époque. Contrairement à la CGT d'ailleurs, qui avait mal à reconnaître que les étudiants fallait compter avec eux. Et je sais qu'il y a une réunion intersyndicale avec les partis politiques. Il a fallu que je me batte pour que l'UNEF puisse venir. Voilà. Donc, pour moi, il y a du positif. Bon, ça a charrié aussi, quelquefois, de l'irresponsabilité, ça c'est vrai. Mais bon, dans l'ensemble, c'est positif.
Madame Martin.
Oui.
Alors, vous, comment est-ce que vous... Est-ce qu'il vous reste des choses? Est-ce que pour vous, il y a des choses de mai 68 qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui découlent de tout ce qui s'est passé, on va dire, 67-68 quand même, parce que c'est pas que mai 68.
C'est peut-être vrai avec les étudiants, hein, parce que c'était... Au Mans, c'était à l'extérieur un peu. Mm-hmm. Tandis que là, il y a eu un ensemble, peut-être. Mais autrement, non, il n'y avait pas de syndicats à la préfecture, il y a des syndicats, c'est pas... Je dois dire que même avec la décentralisation, il y a beaucoup plus de syndicats qu'il n'y avait à l'époque. Et d'un autre côté, alors, les fonctionnaires sont toujours régis par des textes sur le plan national, et ça continue, sauf pour tous ceux qui sont passés dans le Conseil Général.
D'accord.
Parce que dans le Conseil Général, il y a quand même beaucoup plus d'avantages que dans la fonction publique. Vraiment très net. Et alors, il est certain que pour ça, le personnel a gagné beaucoup sur ce plan-là.
D'accord.
Mais je ne pense pas, à titre personnel, que le personnel se rende compte de ce qu'ils ont gagné.
Ah oui.
Parce que je vois souvent certaines manifestations, certaines organisations, etc., Et je pense qu'ils sont très très loin de ce que nous avions à l'époque. Ils ont beaucoup, beaucoup déménagé, hein, si on peut dire. Oh oui, beaucoup. Et avec le Conseil Général, ils sont assez nets, et sur le plan syndical, hein, beaucoup plus, ça, oui. Je crois que là, le personnel ne voit plus du tout ce qu'il y avait en 68.
Hein. C'est oublié ?
C'est tout à fait différent. Hein. Mm-hmm. Le personnel est maintenant au Conseil Général, dans presque une organisation qui le structure, et ils examinent souvent plus leurs possibilités. Hein. Je dois dire qu'au Conseil, à la préfecture, on avait les instructions de Paris, et on respectait les instructions de Paris. Hein. C'était pas du tout pareil. Hein. Pas du tout.
Oui,
je dois dire que j'ai des jeunes que j'ai vus franchir des étapes chez le Conseil Général et qui resteraient tout à fait en bas dans la préfecture. Hein.
Merci Madame Martin. Monsieur Clavreul.
Et pour moi, pour un jeune ouvrier qui avait tout à apprendre, ça a été une chance inouïe, mai 68. Ça m'a plongé dans une réalité importante, et ça m'a fait découvrir ce que pouvait être la solidarité ouvrière. Alors, moi, je dirais classe ouvrière peut-être, mais aussi peuple ouvrier. Mm-hmm. Et, voilà, il y a des valeurs là, de partage, je pense à la place des immigrés. Alors bon, moi j'étais célibataire, j'occupais la nuit avec les copains turcs en particulier. Alors après, ça m'a valu d'habiter avec eux carrément 5 ans. J'ai appris plein de choses avec les travailleurs immigrés. Et surtout, on a fait en sorte qu'ils prennent leur place. C'était vrai en France. Et dans la métallurgie, là, ils n'avaient pas forcément toute leur place. Donc la place des immigrés, pour moi, a été quelque chose d'important. Et la section syndicale aussi. Et ça a été déterminant pour après. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, ben, c'est la preuve que on a besoin d'un mouvement syndical fort pour garder les acquis sociaux ou en gagner d'autres. Et moi, aujourd'hui, ça m'appelle à ce que la solidarité, aujourd'hui, elle ne soit pas que dans l'Hexagone, là. Elle soit internationale. C'est très important au moment de la mondialisation. Et je pense que mai 68 nous a appris cette solidarité qu'aujourd'hui, on doit l'élargir à un autre niveau. Et quand je pense à ce qui s'est passé avec Dacia et Renault, c'est quand même un bel exemple des valeurs syndicales.
D'accord. Pour conclure cette émission, j'aimerais me retourner vers Michel Rosier, notre historien. Est-ce que mai 68 était inévitable, d'après vous ?
Diable ! Quelle question. Non, je crois que dans les raisons de 68, on oublie un facteur, c'est le facteur démographique. C'est-à-dire que les jeunes qui font mai 68, à Paris particulièrement, mais après sur l'ensemble de la France, c'est la génération du baby-boom. Mm-hmm. C'est-à-dire les jeunes qui sont nés après la guerre, qui sont très nombreux, dans des familles nombreuses. Et la pression démographique a joué un rôle. Ces jeunes-là, ils trouvent que la société, en matière de mœurs, en matière de relations avec les enseignants, etc., est trop autoritaire. Il faut se souvenir de ce qu'était le mode de gouvernement du général de Gaulle, qui était un homme extrêmement autoritaire, qui était un homme par ailleurs extrêmement entreprenant. La France des années 60 a beaucoup changé. Et donc dans l'aspect de 68, il y a cela. Alors par ailleurs, comme ça vient d'être rappelé par Émile Clavreul, c'est un mouvement international. La France, en fait, n'est pas isolée. Hein. Le 68 commence aux États-Unis d'Amérique, essentiellement. Il y a le Vietnam. On n'a pas parlé, par exemple, du fond qui était la protestation contre la guerre américaine au Vietnam. Tout ça joue un grand rôle. Et les mouvements étudiants, au départ, ce sont les comités Vietnam. C'est l'hostilité à la guerre du Vietnam. Les bagarres dans les rues, dans le boulevard Saint-Michel, commencent avec la protestation contre la guerre du Vietnam. Donc, évitable, pas évitable, si vous voulez. Bon, il y a un engrenage. Madame Martin a évoqué très justement la décentralisation qui arrive en 82. Mais le fait que le pays soit très centralisé a joué un rôle en 68. Voilà. Il a accentué le côté national très fort de 68, si vous voulez, clairement. Donc cette espèce de mouvement que le gouvernement très vite ne contrôle plus, si vous voulez, c'est largement lié à une organisation très très forte, très centralisée, très autoritaire de la France, d'une France qu'on a complètement oubliée. La France d'aujourd'hui n'a quand même pas grand-chose à voir sur le plan du fonctionnement politique. Enfin, si quelqu'un examinait la manière dont gouverne Sarkozy par rapport à la manière dont présidait Charles de Gaulle, c'est le jour et la nuit.
Ouais. Est-ce que mai 68 aussi a aidé au développement des syndicats comme on les connaît actuellement ?
Alors, il a aidé, le Roland Bec-de-Lèvre a souligné l'apport de la section syndicale d'entreprise qui est considérable. Ce qu'il faut d'ailleurs rappeler au passage, c'est qu'en France, le patronat n'a jamais rien accordé spontanément sur le plan syndical et que l'organisation syndicale, si vous voulez, la présence syndicale dans l'entreprise a toujours été acquise dans le cadre de luttes nationales, 36, la libération, 68, et puis après, il faut accepter 82, mais 82, c'est le pouvoir politique avec les lois Auroux, par exemple, oui. qui modifie la législation pour la vie du syndicat dans l'entreprise. Mais ouais. le patronat français est quand même assez rétrograde, si vous voulez, historiquement. Donc, ouais. 68 a été sans doute une des plus grandes dates dans le mouvement syndical. Alors, après, ce qui a entraîné une dégénérescence du mouvement syndical, c'est le chômage. Ouais. C'est-à-dire, c'est la crise 75. Économique qui commence en 73 avec le premier choc pétrolier, ouais. qui est amplifié, ouais. etc. Et c'est ça qui a détérioré la présence syndicale dans le secteur marchand, ouais. pour être très précis. Ouais.
On va être obligé de se quitter sur ces paroles. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, il y aura d'autres émissions.
Il n'y a pas eu de débouché politique dans l'immédiat en 68.
Voilà. C'est après,
dans
les années suivantes.
Ça a préparé 77 et la poussée de la gauche au municipal d'abord et au niveau national avec l'arrivée de Mitterrand.
Très bien, merci pour ces précisions, M. Bec-de-Lièvre. Nous étions donc sur l'émission Syndicats et ouvriers en compagnie de Roland Bec-de-Lièvre, Rémi Clavreul, Guy Henry, que l'on remercie d'être resté avec nous au téléphone, Lucienne Martin, Michel Rosier, qui est donc notre historien, Franck Pohu, qui a animé en même temps que moi Noël, et je remercie aussi Jean-Michel, qui était à la réalisation de cette émission. Merci à tous.
Cette émission a été réalisée par Fréquence Sillé, avec le soutien de la région Pays de la Loire, dans le cadre du Fonds d'aide à la création radiophonique.